9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jean-Marc Ayoubi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, obstétricien, chef de service à l'hôpital Foch de Suresnes. C'est votre équipe qui a réalisé la première greffe d'un utérus en France. Vous êtes un as de la médecine de la reproduction qui traite donc de l'infertilité. Or, une étude est sortie cette semaine dans la revue Human Reproduction Update qui conclut que la chute de la concentration de spermatozoïdes chez l'homme est un phénomène mondial qui pourrait menacer très rapidement la survie de l'humanité. Comme si on n'avait pas déjà suffisamment de problèmes. Ce rapport est-il aussi sérieux et aussi grave qu'on le dit ?
Ce rapport, il est plus que sérieux. Ce rapport, il n'est pas le premier. On le sait depuis plus de 15 ans. Maintenant que le nombre de spermatozoïdes dans un spermogramme baisse, plusieurs études l'ont rapporté, des études françaises, européennes, internationales. Mais ce qui est nouveau avec cette étude, qui n'est pas la première par la même équipe qui a déjà publié pratiquement la même étude il y a plusieurs années, mais que ça concernait uniquement les pays occidentaux, les pays développés.
Voilà, c'est mondial.
Alors, ce qui est important, c'est que c'est une étude qui rassemble énormément d'études sérieuses qui ont rassemblé cette base de données, qui l'ont réanalysée, et c'est surtout là, c'est la continuité depuis 1973 jusqu'à 2018, et de voir l'évolution du nombre de spermatozoïdes dans un spermogramme à travers les années, et de constater que non seulement le nombre de spermatozoïdes baissait, mais que cette baisse s'accélère, malgré le fait qu'on lance les alertes depuis plusieurs années, malgré le fait qu'on fait de la prévention, malgré le fait qu'on alerte qu'il y a de causes qui sont plus que plausibles, qui sont responsables de cette baisse, elle s'accélère, elle a doublé. On était parti d'une diminution de nombre de spermatozoïdes de 1% par an, on est passé à 2,64, et on est passé de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre à 50 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et la troisième et la dernière constatation, qui n'est pas la moindre, cette baisse, non seulement elle concerne les pays développés, les pays occidentaux, mais elle concerne la Terre entière, tous les continents, l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Europe, et aussi l'Asie et l'Afrique. Et donc cette baisse, elle est planétaire, et donc l'alerte, elle est plus que sérieuse.
Oui, parce que à ce rythme, vous l'avez dit, on est passé entre 73 et 2018 de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre à 49 millions exactement par millilitre. À ce rythme, en 2060, on arrivera à 15 millions par millilitre. À ce moment-là, on sera devenu stérile.
Non, on ne devient pas stérile à 15 millions, on devient stérile à l'absence des spermatozoïdes. Donc en fait, même s'il y a un spermatozoïde qui persiste, il peut toujours donner des embryons et donner de grossesse. Mais il ne faut pas attendre cette baisse pour agir. Plus on diminue le nombre des spermatozoïdes dans un spermogramme, moins on a de chances d'avoir une grossesse, que ce soit de façon spontanée ou même par assistance médicale à la procréation. Et il ne faut pas croire que l'assistance médicale à la procréation va gommer toutes les diminutions des spermatozoïdes au monde. Donc c'est ces deux choses qui sont à la fois complémentaires mais aussi différentes. Il y a une alerte qui est nécessaire aujourd'hui, mais de là à dire que l'humanité est en danger dans 10 ans, je crois que c'est irréaliste et c'est exagéré.
10 ans non, mais moi je disais 40.
Bon, enfin, l'alerte, elle aurait dû être encore plus précoce.
Mais pardon de vous interrompre, Jean-Marc Ayoubi, mais vous l'avez dit, c'est un phénomène qui n'est pas cantonné au pays de l'hémisphère nord, c'est un phénomène mondial, mais est-ce qu'on sait véritablement ce qui en est responsable ? Est-ce que c'est lié à la crise environnementale, aux résidus de plastique dans la chaîne alimentaire, aux pesticides, à la pollution ? Est-ce que c'est lié à la sédentarité, à l'obésité, à notre mode de vie ? Mais on n'a pas le même mode de vie en Afrique et en Europe. Alors, est-ce que c'est dû au stress, aux médicaments, aux perturbateurs endocriniens ? On sait véritablement à quoi c'est dû ?
Vous n'avez pas besoin de m'inviter pour
vous
expliquer. Vous avez tout cité. Vous avez tout cité et c'est tout à la fois. Parce qu'il n'y a pas un seul facteur dans l'infertilité. Souvent, c'est l'association de plusieurs facteurs. Là, on se focalise sur les causes masculines. Il ne faut pas oublier les causes féminines. Mais pour une fois, on focalise l'attention sur l'infertilité masculine et dire que l'infertilité, elle n'est pas l'affaire de femme, elle est l'affaire de couple. C'est quand même quelque chose de global. Et quelque chose de global qui concerne tous les facteurs que vous venez de citer et certainement d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore et qu'on cherche à découvrir pour les prévenir. Mais l'intérêt de cette étude, c'est de comparer les continents en mettant de côté, en éliminant en quelque sorte, les causes qui sont dues à tel ou tel continent. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire ce sont les mêmes, on a gardé les causes qui sont identiques d'un continent à l'autre et qu'on garde dans ces causes-là, la baisse elle est mondiale, elle est planétaire.
Et vous avez parlé de la fertilité féminine, est-ce que c'est pareil chez les femmes? Est-ce qu'il y a une baisse des ovules par exemple?
Alors il est difficile de comptabiliser les ovules, on a beaucoup plus facilement la possibilité de comptabiliser les spermatozoïdes sur un spermogramme, mais c'est pas la même chose chez la femme. Alors c'est beaucoup plus compliqué chez la femme. On sait que la fertilité féminine, elle baisse avec l'âge et elle commence à baisser à partir de 32, 33 ans pour s'accélérer ensuite. Ça, c'est quelque chose qui est codifié, qui est connu, qui est publié. Ça, on ne revient pas là-dessus. Il y a d'autres causes qui sont de causes sociétales. Il y a des femmes qui retardent la première grossesse. Et donc, du coup, la baisse de la fertilité, elle est due à l'âge. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets chez l'homme et chez la femme. Par exemple, le tabac, il est néfaste chez l'homme et chez la femme. Les pesticides sont néfastes chez l'homme et chez la femme. La mode de vie est néfaste chez les deux à la fois. Mais il y a des causes qui sont propres à l'homme et des causes qui sont propres à la femme. In fine, l'infertilité, elle est commune, elle est intégrale. Elle concerne le couple, elle concerne l'homme et la femme. Et quand on a une baisse des spermatozoïdes et du nombre des spermatozoïdes. Surtout, cette étude ne s'est pas intéressée à l'étude de la qualité du sperme, elle s'est intéressée au nombre, parce que c'était le plus reproductible. C'était le paramètre le plus reproductible qui a été étudié, mais on ne s'est pas intéressé à la morphologie, on ne s'est pas intéressé à la qualité des spermatozoïdes. Mais un spermatozoïde, si on a 100 millions et qu'ils ne sont pas fécondants, encore autant, on n'est pas en avoir.
On n'a pas mesuré pareil non plus leur mobilité, par exemple.
Mais ni la mobilité, ni la morphologie.
Ça joue, la mobilité.
C'est, absolument. La mobilité, elle joue dans une fertilité spontanée, c'est-à-dire des grossesses spontanées. Mais la morphologie joue, y compris dans l'assistance médicale à la procréation. Et cette partie-là, on l'a pas étudiée, mais elle est aussi, en tout cas, on la remarque, nous, dans notre pratique de tous les jours, qu'elle est aussi en baisse. Le nombre de formes typiques par millilitre, de spermatozoïdes de forme normale par millilitre, il nous semble qu'elle diminue aussi, mais elle est plus difficile à déterminer.
Est-ce que la tentation aujourd'hui, professeur Ayoubi, ce ne serait pas de faire congeler notre sperme tant qu'il est encore de bonne qualité, on va dire?
C'est une possibilité, c'est raisonnable. J'espère qu'on n'aura pas à avoir recours à cette possibilité, parce qu'il faut faire face à toutes les demandes de congélation de sperme, et il faut créer d'autres laboratoires, d'autres spécialistes, ainsi de suite. Mais ce qui serait plus judicieux, c'est de promouvoir la recherche pour essayer de proposer de la prévention, pour essayer de comprendre encore mieux la spermatogénèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes, ou la folliculogénèse, c'est-à-dire la formation des ovocytes, et de rechercher les causes qui ne sont pas simplement plausibles, mais qui sont certaines dans la genèse de perturbations, d'essayer de les éviter, de faire de la prévention. C'est beaucoup plus rentable que de conserver, de cryopréserver des spermatozoïdes tout venant et à tout le monde. On a fait un rapport qui a été remis au ministre de la Santé suite à une demande du président de la République pour déterminer les causes des infertilités aussi bien masculines que féminines. Il y a un rapport sur la fertilité pour un plan national et tout ce qu'on dit aujourd'hui est écrit dans ce rapport. Toutes les doléances de ce groupe auquel je participais, qui était je dirais, menée après des multiples auditions, mais on parle bien de perturbateurs endocriniens, on parle bien de la détérioration de spermogramme, et on parle bien de mesures de prévention de ce qu'il faut proposer, et le rapport conclut à une doléance de créer un institut national des fertilités qui s'occupe de promouvoir et de développer la recherche dans le domaine de la fertilité et masculine et féminine, dans la prévention, dans la compréhension de causes qui sont plausibles dans la détérioration de cette fertilité qui, certainement, elle baisse. Toutes les études convergent dans le même sens. Cette fertilité est masculine et féminine, elle baisse. Et donc, il faut vraiment réagir, aller de l'avant et proposer un grand institut de la fertilité qui s'occupe de la formation, de l'information et surtout de la recherche dans ce domaine.
Et bien voilà, après le dérèglement climatique, après la guerre en Ukraine, après le retour de l'inflation, voilà un souci de plus. Merci professeur Ayoubi.
Merci à vous, bonne journée.